L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Bienvenue à tous, je suis Daïdré, votre hôtesse radiophonique. Vous écoutez l'épluche livre.
Elle, c'est la lettre des livres.
Louis lit un livre où il y a des lions, des lionnes, des loups, des lacs, des lapons, des lapones et des gauchos qui lancent des lassos sur de longues licornes.
Troisième et dernière émission de notre cycle consacré à la quinzaine des librairies indépendantes d'Occitanie. Aujourd'hui, nous cuisinons littéraire en compagnie de Diane Dupré-Latour. Diane, bonjour.
Bonjour.
Et en compagnie aussi d'Hélène, qui est porteuse de projet Les Petites Cantines de Montpellier. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comment allez-vous, Diane ?
Très bien. La journée bien chargée, mais heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée, tambour battant.
Super, bravo à vous en tout cas. Vous êtes l'autrice du livre « Comme à la maison », qui est un récit paru aux éditions Actes Sud. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit, de quoi parle ce livre ?
Ce livre parle d'un restaurant de quartier qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un endroit où ce sont les habitants, les voisins, les gens qui habitent dans le quartier qui viennent cuisiner ensemble et ça change tous les jours. Et à table, on voit défiler des gens de toutes les générations, tous les parcours de vie. Et l'alimentation est engagée, ce qui est dans l'assiette est très important. Et c'est un restaurant à prix libre.
D'accord.
Donc, sauf que, en fait, quand on parle de restaurant, souvent on parle de beaucoup, beaucoup d'autres choses autour, et notamment de relations. Et je suis allée explorer ce qui avait fait que j'avais atterri dans ce projet, comment est-ce qu'il était né et comment, en fait, dans ma vie, dans quel parcours, dans quel type de relation il avait germé pour être ce qu'il est aujourd'hui.
D'accord, très bien. Donc, parce que « Comme à la maison » donc est un récit très personnel. Le récit donc de votre vie de famille, de votre vie de couple en partie, qui explique un petit peu la genèse de ce projet. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, c'est effectivement un récit intime dans lequel je retrace une histoire amoureuse qui a été fondatrice pour moi et qui s'est transformée aussi en relation d'emprise avec une plongée dans une relation empreinte de violence. Qui a entrepris de déconstruire chez moi des choses très profondes qui ont trait pas juste au rapport aux autres, mais aussi au rapport à soi et même aux relations au monde, même dans la manière d'interagir plus globalement. Et c'est des choses, je trouve, qui nous touchent tellement profondément qu'il y a des moments où on n'arrive même plus à poser des mots dessus. Et je me suis dit que j'avais besoin d'écrire le livre que j'aurais aimé lire au moment D'accord. où j'ai vécu ces choses-là.
D'accord, très bien. Donc oui, car vous avez perdu donc votre époux il y a quelques années. Et donc suite à ça, vous êtes entré, donc, comme vous l'expliquez, en recherche, en introspection. Et vous avez donc cofondé en 2016 les Petites Cantines, donc ces restaurants participatifs dont vous nous avez expliqué un petit peu le principe. Donc ces restaurants, c'est un projet que vous avez porté, mais pas toute seule ?
Non, au début on a démarré à deux avec Étienne Touvenot. C'est vraiment notre rencontre qui a été le déclic. Et puis très vite, on a été entouré par plein d'autres personnes. Je pense à Nicolas, Majouba, Odile, Jacqueline, Fatou. Enfin, on a vraiment, il y a eu tout un élan de quartier en fait, qui a été très porteur et puis surtout très créatif. Mmh. Très créatif, je pense qu'en tout seul, on n'aurait jamais réussi à monter ce restaurant. Et aujourd'hui, les petites cantines, c'est pas juste un restaurant, mais c'est des restaurants aussi dans d'autres villes. Mmh. Y a 17 000 convives en tout, c'est plus de 7 tonnes d'invendus collectés, c'est 14 restaurants ouverts, une quinzaine en phase de montage. Donc en fait, c'est carrément, c'est un projet qui est toujours non lucratif, mais c'est, on peut dire, une sorte d'entreprise sociale apprenante. On essaye d'imaginer à quoi ressemblerait un quartier s'il y avait un lieu où tous les habitants seraient les bienvenus pour venir prendre leur place à table les uns avec les autres et tisser, s'ils le veulent, entre eux des relations de qualité.
Mmh. Oui, oui, oui. Donc, comme vous le dites, votre idée a fait des petits. Et notamment à Montpellier, donc, nous avons une petite cantine, je crois que vous êtes au courant, Diane, hein, qui est en cours d'élaboration. Hélène, peut-être, pourra nous en dire un petit peu plus. Où en êtes-vous de votre projet, Hélène ?
Alors, l'association à Montpellier, elle existe depuis un peu plus d'un an et demi, presque deux ans. Et donc, moi, je fais partie de l'équipe de porteurs de projets depuis presque un an, avec Emma et Alizé, qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et donc là, on en est au stade où le nerf de la guerre, c'est de trouver un local, ce qui n'est pas la chose la plus évidente à Montpellier. Et en parallèle, on cherche aussi des financements pour financer les travaux dont on aura besoin dans le local pour aménager une cuisine professionnelle et un espace qui soit adéquat pour que les gens puissent venir faire la cuisine et ensuite partager un repas. Mmh. Et donc en attendant d'avoir un lieu fixe, on fait au moins une fois par mois des petites cantines éphémères. Donc dans différents lieux de la ville. Pour le moment, on a beaucoup été partenaires avec des maisons pour tous. Et donc là, la prochaine, si je ne me trompe pas, c'est dans la maison pour tous de Albert Camus, le 11 octobre, c'est un vendredi. Oui, ça doit être ça. Et ce sera le midi.
Et tout le monde est invité à participer. Il faut s'inscrire. Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, il faut s'inscrire en amont. Donc, en fait, l'idée, c'est de partager les inscriptions avec à la fois les adhérents de la Maison pour tous et à la fois les adhérents de notre association à nous. Donc, c'est pas ouvert vraiment à tous parce que pour préparer à l'avance les repas, il faut quand même qu'on ait un effectif. Donc là, pour le moment, comme c'est dans un mois, on n'a pas encore ouvert les inscriptions. Mais on va bientôt faire notre communication là-dessus. Oui.
Et alors, quelle est votre histoire, votre relation, vous, Hélène, avec donc ces petites cantines ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Est-ce que vous connaissiez Diane Dupré-Latour ? Est-ce que vous avez entendu parler de son livre ? Comment vous êtes arrivée à devenir porteuse de ce projet, qui est un projet quand même d'envergure ?
Eh bien, alors moi, je ne connaissais pas du tout les petites cantines. En fait, l'année dernière, j'étais à Paris pour finir mes études. Donc, j'ai fait une deuxième année de master et je travaillais dans une régie de quartier qui porte un restaurant solidaire. En fait, je suis très intéressée par des projets qui tournent autour de l'accès à l'alimentation durable. Et en fait, voilà, j'ai envie de participer à favoriser l'accès à une alimentation plus saine et plus durable à toutes et tous. Et en fait, en voulant venir me réinstaller à Montpellier, j'ai cherché un peu ce qui se passait. Et j'ai vu que Emma, qui a donc participé à la fondation de l'association montpelliéraine, cherchait des co-porteurs, co-porteuses de projets. Donc c'est comme ça que je lui ai écrit, que je lui ai demandé un peu de quoi il retournait. Et elle m'a présenté le projet. Et en fait, comme ça m'a plu et qu'on a plutôt bien accroché, je me suis lancée comme ça.
Ok, super. Et donc pas de piste pour le local du coup pour l'instant ?
Non, on a fait beaucoup de visites. On a des pistes, mais pour le moment, il n'y a rien qui donne vraiment quelque chose de concret.
Bon, on lance un petit appel, alors hein, n'hésitez pas.
Oui, tout à fait. Si vous avez des idées.
Ou un local, vous cherchez locataire, hein, puisque l'association sera donc locataire de son local.
Oui, l'idée, c'est ça. Et les quartiers de prédilection, c'est un peu quand même autour de l'Écusson. Mmh. Il faut que ce soit idéalement un quartier mixte où il y a à la fois des gens qui vivent, à la fois des gens qui travaillent, des personnes de toutes les générations, de tous les milieux sociaux.
Mmh. Et vous, Diane, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé, l'ouverture de votre première petite cantine, ce challenge de trouver concrètement, parce que c'est une entreprise, bon, c'est à but non lucratif, mais vous avez été entrepreneur, vous êtes entrepreneur quelque part.
Oui, c'est sous forme associative, mais oui, en fait, c'est l'entrepreneuriat non lucratif. Je me souviens de l'ouverture, c'était le 1er septembre 2016. Donc on avait trouvé un local à côté de chez moi. On avait démarré pareil, hein, comme à Montpellier, avec des cantines éphémères dans des lieux qu'on nous prêtait. Ça nous avait permis de bâtir ce qui est en fait l'architecture invisible des petites cantines, c'est-à-dire les relations. Mmh. Les relations, la communauté, etc. Et d'avoir du coup déjà une belle communauté bien engagée. Et puis la période de recherche de local, c'était pas évident, je me souviens, parce que on avait plein de portes fermées et tout, c'était pas si facile, on essayait de pas passer, il fallait qu'on trouve un bailleur qui comprenne notre projet, qui soit éventuellement d'accord pour négocier un peu le bail, qui comprenne notre projet d'impact, qui voit surtout l'intérêt d'avoir une activité de restauration qui fait pas de friture, qui fait pas du kebab, qui fait pas, en fait, et qui est hyper respectueuse du voisinage, puisque à 22h, en général, tout est fermé et puis que les relations avec les voisins sont extra. Et comme il y a beaucoup de vrac, donc pas beaucoup d'emballage, en fait, il n'y a pas beaucoup de poubelles.
D'accord.
Donc en fait, pour un bailleur, ça valorise vachement le bien immobilier parce que c'est une manière d'en prendre soin.
D'accord, bah c'est de bons conseils.
En fait, le nôtre, on l'avait trouvé sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, et ça a topé tout de suite. Le propriétaire, qui était un propriétaire classique, nous a proposé un bail 369, a été super sympa, il nous a proposé de refaire un peu la ventilation, enfin plein de trucs. On s'est surtout très bien entendu avec lui. On avait fait une partie du chantier où c'était des entreprises qui étaient venues le faire, et une autre partie qui était participative, c'est-à-dire c'est les habitants du quartier qui étaient venus faire le coup de peinture et tout ça. Et je me souviens qu'on a posé la chasse d'eau des toilettes une demi-heure avant que le premier convive ouvre. Donc on n'était pas en avance, mais heureusement que les habitants du quartier étaient là pour les travaux. Et on a ouvert le jour de la rentrée scolaire, ce qui est une grave erreur. Je ne recommande à personne qui a une famille de faire ça. Parce que c'était chaud de gérer à la fois le fait que les enfants entrent à l'école et qu'il y avait le premier repas. Donc je recommande d'ouvrir plutôt le lendemain de la rentrée. Voilà, ça c'est mon conseil.
Je pense que c'est un très bon conseil. Et dans ce pays de plus en plus libéral dans lequel nous vivons, comment on justifie ce projet-là auprès des banques ? Comment on met cet investissement en valeur ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Il faut défendre une idée où il n'y aura pas de lucratif, mais pourtant vous avez certainement emprunté, je suppose ?
Alors, non, on n'a pas emprunté. En fait, pour vous dire deux mots sur le modèle économique, pour monter une petite cantine, en général, il faut entre 100 et 200 000 euros d'investissement. Ça va dépendre de l'état du local qu'on trouve, hein, s'il y a beaucoup de travaux, de remise aux normes à faire ou pas, mais il faut réunir 200 000 euros. Et ces 200 000 euros, on ne va pas les emprunter auprès des banques, on va réunir des dons. Donc ça peut être des dons, une subvention de la collectivité locale, ça peut être des dons des entreprises du quartier, la majorité du temps, c'est ça. Ça peut être des fondations du territoire qui ont un intérêt à s'installer la petite cantine sur ce territoire. Il peut y avoir aussi un peu de crowdfunding, donc des campagnes de financement participatif. Et tout ça, ça nous a permis, sur chacun des 14 premiers restaurants ouverts, de financer les travaux, les investissements. Une fois que la cantine elle, est ouverte, on va chercher à viser l'autofinancement. Ça veut dire que grâce au prix libre, en fait, on va pouvoir accueillir des gens qui vont donner, pour certains, 1, 2, 3, 4 euros pour leur repas. D'autres vont peut-être donner, je ne sais pas, entre 10 et 15 euros, par exemple, pour entrée, plat, dessert, café à volonté. D'autres vont peut-être donner 20 euros ou plus. Et ça va nous permettre d'équilibrer en grande partie les comptes,
d'accord,
de payer nos charges, etc. Souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que ce prix libre, il nous permet de couvrir entre 60 et 80 % des charges de la cantine. Mmh. Et il reste donc le Delta. Là, on va proposer aux entreprises du quartier de privatiser la cantine pour faire des réunions d'équipe, des ateliers team building, de la cohésion, etc. Il peut y avoir aussi des événements familiaux ou des AG de copropriété ou des formations. Ça peut être un lieu de formation. Donc, on loue comme ça la cantine. Et ça nous permet de couvrir l'ensemble des charges en essayant le moins possible de dépendre de subventions.
D'accord.
Ça peut nous arriver de dépendre de subventions s'il y a un projet territorial mené avec les collectivités ou des partenaires médico-sociaux ou autres. Mais je trouve que c'est important de se dire que le lien qui nous unit, il a de la valeur, qu'on va investir dessus en termes de temps, en termes de voilà, et que ça va avoir un impact tellement, tellement chouette sur le quartier qu'en fait tout le monde va venir mettre son grain de sel et que comme ça le projet il va pouvoir être mis en économie. Super. En fait, l'économie c'est quand ça circule et pour nous c'est une belle image du lien social.
Oui, oui, c'est une très très belle valeur. Petite pause musicale, nous allons écouter donc Recette pour un cake d'amour qui est tiré du film Peau d'âne. Ça sera interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Les Pluches Livres. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Diane Dupré-Latour, autrice du récit Comme à la maison, et Hélène, porteuse du projet Petite Cantine de Montpellier. Je me permets, pour introduire cette seconde partie d'émission, de vous lire un petit extrait du livre donc Comme à la maison. En cuisine, comme dans la vie, on fait avec ce qu'on a dans le frigo. Le quotidien de ce restaurant, effet de pluche, d'aller-retour au compost, de vaisselle et de torchons à plier. C'est une école du réel. Elle m'enseigne l'art de relâcher la pression. En termes plus philosophiques, on dirait consentir à ce qui est là, même si ma volonté le voudrait autrement. Diane, donc ce sont vos mots que je viens de lire. Vous les reconnaissez bien.
Oui.
Donc, ce terme, enfin cette phrase, consentir à ce qui est là, même si ma volonté le voudrait autrement, ça m'inspire une question. Donc, ce livre, vous l'avez écrit, on l'a expliqué, suite à un drame personnel. Ça vous a été, je suppose, certainement un petit peu salvateur quelque part. Comment vous en êtes venu à le publier, la démarche concrète de publication, soumettre mon texte à moi, très personnel, à un éditeur? Quelle expérience vous avez eue de tout ça?
Ça a été un long travail préparatoire, parce que comme ce texte, c'est pas de la fiction. Mmh. C'est vraiment mon histoire familiale. En plus, au début, j'avais changé les prénoms.
Mmh.
Et c'est quand je les fais relire à mes enfants qui m'ont... En fait, ils m'ont dit, bah, « Non, maman, c'est notre histoire. On ne veut pas que tu changes les prénoms. Mmh. » Donc, ça a demandé d'assumer ce que j'écrivais. Donc, ça a été un long travail préparatoire pour préparer mes proches.
D'accord.
Préparer mes proches, dialoguer avec eux. C'est très important pour moi, les relations, du coup... Bah, savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait les blesser ou autre dedans.
Mmh.
Donc ça a pris du temps. Ensuite, je l'ai envoyé à un éditeur, comme on envoie une bouteille à la mer, dans le sens où moi, c'est mon premier ouvrage, je ne savais pas du tout comment il allait être accueilli.
Mmh.
Je l'avais envoyé à Actes Sud pour une collection qui s'appelle Le Domaine du Possible,
oui.
Qui a été lancée par Cyril Dion et qui met en valeur des initiatives, des parcours d'entrepreneurs. Donc je me reconnaissais dans cette ligne. Et en fait, comme c'est un texte hybride qui mêle certes une aventure entrepreneuriale, mm-hmm. Dans la transition, mais aussi un peu une histoire de quartier, et aussi un récit beaucoup plus intime, et puis qu'en plus il y a des petites touches de un petit peu plus sociologique,
oui.
Voire anthropologique ou philosophique.
Oui, voire philosophique, même un petit peu spirituel à certains endroits.
Parce qu'en fait, moi je trouve qu'on peut pas... Parfois on met les choses dans des cases. Par exemple, il y a le lien social d'un côté... le lien intime de l'autre, ce qui est cérébral, ce qui est émotionnel de l'autre, etc. Et en fait, nos vies, elles sont pétries de tout ça à la fois. Et je trouve qu'en nous, ça s'entremêle un petit peu comme dans une marmite de ratatouille. c'est bon comme ça. Et du coup, j'ai voulu un peu tout mélanger dans ce récit. Et c'est pour ça que finalement, Actes Sud a choisi l'angle de la littérature.
Mm-hmm.
C'est un texte qui est littéraire.
Oui.
Oui, et c'est vrai que du coup, moi j'ai reçu ça comme une grande chance, parce que je trouve que la littérature, en tout cas pour moi, c'est un moyen de répondre à mon besoin de me sentir relié.
D'accord.
C'est-à-dire, j'ouvre un livre, c'est une rencontre, et j'ai écrit ce livre en me disant, mais qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres, mais en me fichant du regard des autres.
Oui, oui, oui.
Et du coup, ça donne cette ligne de crête qui est... j'ouvre mon intimité, peut-être que j'accueille aussi un peu la vôtre, on ne sait pas comment ça résonnera, et peut-être qu'à la fin du livre, on se dira, y a eu une rencontre, quoi.
D'accord. C'est en tout cas, nous à la librairie, ça nous a beaucoup touchés, ça nous a beaucoup inspirés. Notamment, ça nous a inspiré une rencontre avec vous et avec les porteuses donc, de projets de la petite cantine. Donc, vous serez à la librairie dans le cadre de la quinzaine des librairies indépendantes d'Occitanie. Donc, ça sera mercredi 2 octobre à 18h30. C'est bien ça ? Ouais.
Oui, c'est bien ça. Je serais très heureuse de rencontrer les lectrices et les lecteurs.
Oui. Et donc, vous serez présente en même temps avec les membres donc, de l'association pour les petites cantines, la petite cantine Montpellier-Rennes.
Oui, tout à fait.
Pour cette rencontre, donc, nous prévoyons un échange entre nous et avec le public, ainsi que une vente de gourmandises salées à prix libre pour un petit peu commencer à instaurer l'habitude de cette économie vertueuse. C'est ce que vous avez prévu, Hélène ?
Oui, tout à fait. On va préparer des petites choses comme un peu pour un petit apéro dînatoire. Et l'idée, c'est que ce soit revendu à prix libre. Et puis, ça permet aussi d'échanger avec les gens qui vont venir sur le projet, où est-ce qu'on en est. Et peut-être aussi si des gens veulent venir mettre la main à la pâte, parce qu'on est toujours preneur de nouveaux bénévoles. Donc voilà, on est très content de rencontrer Diane aussi, parce que moi, je n'ai jamais rencontré Diane encore.
Une star. Ouais, c'est canon, ça. C'est canon.
Non, c'est chouette qu'on ait pu organiser
merci
cette rencontre.
Merci les plus
libres. Merci à vous. Hein. En tout cas, nous, c'est super. Enfin, ça nous fait plaisir. Donc, la rencontre sera le mercredi 2 octobre à 18h30 à la librairie Les Pluches Libres de Castelnau-le-Lez. Avant que nous nous quittions, Diane, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs?
Oui, j'ai été très marquée par un livre qui s'appelle « Au début est la confiance ». L'auteur, c'est Marc Ougnadi, avec un H, aux éditions Au bord de l'eau. C'est un philosophe. C'est un philosophe... Alors moi, j'ai jamais fait d'études de philosophie. Hein, donc, il faut s'intéresser un petit peu.
Ouais.
C'est la première fois que je lisais un texte aussi exhaustif, aussi complet, sur qu'est-ce que la confiance.
D'accord.
Et c'est une notion que tout le monde connaît, la confiance, mais pour la définir, c'est une autre paire de manches. Et du coup, ça m'a passionné.
Ouais.
Et surtout, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est un regard très critique sur la société du numérique dans laquelle on est, qui, nous dit-il, ne fait pas juste attaquer les relations de confiance entre nous, mais fait pire, c'est que à coup de clic par-ci, clic par-là, ça nous apprend à nous passer des relations de confiance.
D'accord.
Et du coup, c'est comme ça que le muscle de la confiance s'atrophie à force qu'on ne s'en serve pas. Et les petites cantines, au contraire, ce sont des endroits où remuscler la confiance. Un peu comme des salles de sport où on vient à réentraîner son muscle de la confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que ce muscle, on l'a tous en nous. Il n'y a personne qui ne l'a pas. C'est juste que parfois, il faut le réactiver un petit peu.
D'accord. C'est-à-dire que, enfin, si je comprends bien, donc l'auteur Marc Ougnadi, c'est ça?
Marc Ougnadi, ouais. Ougnadi.
Oui. Il questionne peut-être aussi la société de services. Vous parlez de clic, mais aussi quelque part tous les services s'achètent, la compagnie pour les personnes âgées. Enfin, est-ce que c'est des notions auxquelles il fait référence
oui.
aussi?
Oui, oui, oui. En fait, il va déconstruire cette idée selon laquelle on est dans une société de défiance. Et puis, non, en fait, même nos moindres petits actes, ils sont fondés toujours sur de la confiance, en fait. Sauf que c'est invisibilisé, mais même quand on choisit un babysitter, quand en fait, l'acte de confiance est colossal quand on est dans une relation avec un babysitter. Ou quand on prend l'autoroute, enfin, des petits actes du quotidien. Et il va montrer, en fait, comment, à force de rester dans son cockpit, avec son écran en face de chez soi, de vouloir quelque chose, de cliquer et de l'obtenir, eh ben, on se retrouve avec une vie qui est à la surface des choses, à la surface du monde, et on désapprend à habiter le monde.
D'accord.
Et aussi, on se croit tout puissant, alors que la confiance, en fait, c'est le pari d'accepter la non-toute puissance, mais par contre, c'est un vrai synonyme d'action. D'action. La confiance, c'est toujours une action. En fait.
C'est faire avec ce qu'on a dans le frigo,
voilà,
aussi,
<c'est ça.
rire> avec ce qui reste et avec ce qu'on n'avait pas prévu qu'il y aurait au fond du placard. Donc, je vous remercie beaucoup, Diane et Hélène. Nous terminons cette émission. Je rappelle que Diane Dupré-Latour et Hélène seront présentes à la librairie le mercredi 2 octobre à 18h30 à Castelnau-le-Lez. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.